Notre Dieu, nous te remercions pour ce rappel déjà ce matin, car ce témoignage de l'autorité de ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui nous parle. Tu ne laisses pas sans instruction, sans information. Et donne-nous alors maintenant de t'écouter. Bénis mes paroles, que je puisse parler correctement, comme toi tu veux. Et que tu nous donnes, en tant qu'assemblée ici, de t'écouter et te glorifier grâce à ta parole. Amen. Alors, un ami a récemment donné à mes enfants cette encyclopédie. Okay? C'est vraiment chouette en fait. Il y a plein de choses dedans. Je ne sais pas si vous avez eu une encyclopédie quand vous étiez enfant. Si vous l'avez déjà, moi j'ai bien lu en fait. Donc vous pouvez apprendre des choses sur voilà, la Renaissance par exemple. Ici, ça passe à ce que ça va de vivre en Chine. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Ou quoi d'autre. Beaucoup de choses sur l'histoire, sur la force magnétique même. Voilà, beaucoup de choses dedans. Mais l'idée d'une encyclopédie, c'est que il y a une courte description, n'est-ce pas, dedans, d'à peu près tout ce qui existe, voilà, plus ou moins. et l'idée, c'est que les enfants ou d'autres apprennent comment la vie fonctionne. C'est un peu ça, ok, l'encyclopédie. Voilà, ce matin, nous venons de lire 8 versets dans la Bible que François nous a lu en Apocalypse. Et ce que j'aimerais suggérer, c'est que ces 8 versets ici fonctionnent un peu, comme une encyclopédie, ok? Mais super méga condensée, évidemment. Et ils sont là, ces versets ici, pour décrire non pas ce monde, comme mon encyclopédie là, mais, et vous l'auriez remarqué au verset 1, ils sont là pour décrire un nouveau monde, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, c'est un passage très approprié alors pour ce matin. Steve nous a expliqué, n'est-ce pas, que le baptême est le signe d'un événement extraordinaire. C'est le témoignage d'un miracle que quelqu'un est né de nouveau, comme un nouveau enfant, si vous voulez. C'est une réalité spirituelle. Et donc ce matin, Kuhn et Laetitia ont clairement témoigné, par l'acte du baptême, qu'ils ont reçu une toute nouvelle vie. Et donc on peut même dire, voilà, que c'est comme si nous avions deux enfants parmi nous ce matin, entre d'autres. Et donc au moment où Laetitia et Kuhn ont pris la décision de demander pardon à Jésus, comme ils ont témoigné, et de l'accepter comme Seigneur, Sauveur dans leur vie, ils ont commencé une toute nouvelle vie. Et cette nouvelle vie qu'ils partagent, je sais, avec beaucoup d'autres personnes ici présentes, c'est une vie destinée à être vécue non pas dans ce monde seulement. N'est-ce pas incroyable? En effet, ils ont commencé une nouvelle vie destinée, ultimement, à être vécue dans une toute nouvelle création. C'est incroyable. Leur nouvelle vie est une vie immortelle. Waouh! Vous voyez, nous tous qui sommes dans cette salle, dans ce monde, et il faut le dire comme ça, nous allons mourir. Un tôt tard. C'est un fait inévitable, il faut l'admettre. Mais la Bible nous explique qu'il y a une solution. Que, en fait, cette mort n'est pas la fin. Et donc, on peut commencer dès maintenant une nouvelle vie qui est hors de portée de la mort en Jésus. C'est bien, en fait, dans ces versets. Verset 4, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un monde, un nouveau monde, où la mort n'existe plus. Et donc, Kuhn et Laetitia, là, vous venez, vous deux, d'affirmer devant nous que grâce à Jésus-Christ, okay, vous appartenez dorénavant à ce monde décrit ici. Un monde sans mort, sans larmes et tout ça. Et donc, alors ce matin, nous allons étudier ces quelques versets à la fin de la Bible afin de mieux apprécier le monde qui appartient à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. C'est ça, ces 8 versets. Donc, le petit encyclopédie super méga condensé du monde à venir. Et comme dit au verset 1, nous avons affaire de l'annonce d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Donc, ces versets, ils décrivent alors l'avenir, ok? L'Apocalypse, en tant que livre, c'est une lettre écrite par Jean. Et c'est un message qu'il a écrit en tant que disciple de Jésus pour communiquer ce que Dieu voulait dire à son Église. Il a vu toutes ces choses dans une vision donnée par Dieu. Et nous lisons en fait au début du chapitre 1 de cette lettre de l'Apocalypse que c'est un message aux Églises que Jean connaissait lui-même. Okay? Mais le livre a un double portée, à la fois pour le premier cycle, après Jésus-Christ, lorsqu'il a été rédigé, mais aussi pour nous, et surtout car certains des événements mentionnés sont encore à venir, et notamment alors ce chapitre 21. C'est la vision, les plans, la promesse de ce qui arrivera à la fin de ce monde-ci. Et le passage, comme on vient de dire, est encore plus riche qu'il ne paraît. Donc chaque fois, en fait, on peut retracer les informations données ici à travers toute la Bible, ok? Pour avoir un peu plus d'infos. Donc c'est tout comme, voilà, vous chercherez une référence dans l'encyclopédie pour avoir quelques précisions de plus. En fait, ces versets contiennent des références à toute la Bible qu'on va découvrir ensemble pour nous aider à mieux comprendre ce qu'ils disent. Donc ces versets nous donnent juste un tout petit goût du futur. C'est comme les quelques cellules d'un embryon au tout début. Mais c'est la promesse que d'une forme finale qui dépassera de loin tout ce que nous pourrions jamais concevoir. Et nous allons voir trois grandes promesses, ok, contenues dans ces versets. Et la première grande promesse, c'est celle-ci. C'est la promesse d'une bénédiction, d'une nouvelle création parfaite. C'est la bénédiction d'une nouvelle création parfaite. Et c'est les versets 1 à 2. Alors, il est toujours chouette, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous aimez des nouvelles choses. C'est comme quand tu déballes ton nouvel ordinateur et tout est propre et tu sais qu'il va bien fonctionner et faire les choses rapidement. Ça, c'est les nouveautés, c'est chouette. Hein. Et ce n'est pas en fait que pour les objets que nous apprécions la nouveauté. Nous avons tous, n'est-ce pas, en fait, le désir de pouvoir recommencer quelque part. On a bien, en fait, parlé exactement de cela. En fait, on veut tous avoir l'opportunité, n'est-ce pas, d'effacer les erreurs et pas du passé et leurs conséquences. C'est le sentiment de vouloir que les choses soient nouvelles, propres et sans tâche. Ici, dans ces versets, Dieu nous promet, que la nouvelle création, la nouvelle terre, en surtout, sera propre, belle et parfaite, et surtout, que ce sera toujours comme ça. Pas comme ton ordi, qui sera abîmé dans le logiciel de rendu long et les connecteurs dépassés. Non, ça restera toujours comme ça. Sera belle et le sera pour toujours. Et waouh, en fait, quand nous y réfléchissons, nous en avons besoin, n'est-ce pas, de ça? Donc cette promesse, en fait, est soulignée, n'est-ce pas, par la comparaison avec l'ancienne terre, notre terre actuelle. Donc les infos de n'importe quelle semaine, cette semaine en particulier, nous le montrent bien. Nous avons besoin de nouvelles terres, parce que notre terre ne fonctionne pas comme il le faut. On le voit juste en regardant autour de nous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il y a des belles choses. Mais ô combien le mal et le désastre règnent. Nous vivons ici à Bruxelles, dans l'un des endroits le plus sûr du monde. Mais il ne faut pas nous voiler la face. Pour des millions de personnes dans notre monde, la mort, la faim, La cruauté simplement des hommes sont des réalités quotidiennes. Les ouragans, les famines, les tremblements de terre, toutes ces choses. Mais ici, Dieu fait cette promesse de faire toutes choses nouvelles. Et surtout, en fait, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cela, il dit surtout qu'il n'y aura plus de mer dans le verset 1. Alors, c'est quoi ça? Il faut se dire que nous devons comprendre que l'idée de plus de mer, c'est une très bonne chose, ok? Ce n'est pas, ok, que Dieu n'aime pas la voile ou le surf ou les couchers de soleil à la plage, ok? C'est pas ça. C'est une référence, ok, au fait que l'être humain ne peut pas vivre dans la mer, n'est-ce pas? La mer est surtout, pour nous, le source de chaos, finalement. Avant la création du monde, si on réfléchit, nous lisons dans Genèse 1 qu'il n'y avait que des eaux et que Dieu a créé la vie en faisant reculer les eaux pour faire place à la terre ferme afin de permettre à la vie. Et de même, lors du déluge en Genèse 6, okay, c'est la mer qui a tout détruit, n'est-ce pas, cette terre. Et pour que la vie recommence, il a fallu attendre que les eaux redescendent. Et pensez aussi à la façon dont le peuple de Dieu s'est évadé d'Égypte lors de l'Exode. Ils étaient prisonniers, le peuple, face à la mer. Et Dieu l'a fait reculer pour qu'il puisse échapper à l'armée du Pharaon par la terre sèche. Et puis, c'est la mer qui a tué toute l'armée égyptienne qui les poursuivait. Donc la mer, alors, c'est l'illustration, hein, c'est source de chaos et de mort pour l'être humain. Et donc, dans ce verset ici, cette promesse, pas de mer, implique plus de déluge, plus de chaos, et la garantie de la terre ferme pour y vivre en toute sécurité. C'est l'ADN de base, ok, du fait que sur cette nouvelle terre promise, il n'y aura plus de catastrophe naturelle. Et là, c'est une nouvelle dont nous avons besoin en tant qu'humanité. Pense au tsunami au Japon, aux inondations dans le monde. Ici, Dieu promet la fin de tout cela. C'est l'un des soucis les plus prévalents de notre époque, n'est-ce pas? Comment sauver notre planète? Ce discours domine les agendas, les manifestes politiques et tout ça. Tout cherche des moyens à sauver la Terre. Alors oui, nous avons besoin de prendre soin de la planète que Dieu nous a confiée. Mais Dieu promet ici un nouveau monde sans défaut. C'est incroyable. Et puis, est-ce que vous avez remarqué ce qui sera au cœur de cette nouvelle terre dans le verset 2? C'est une ville, la nouvelle Jérusalem. Alors, ce verset aussi, de quoi refaire réfléchir. C'est une ville nouvelle, qui est aussi une mariée, vous avez remarqué cela? C'est quoi ça? Et pourquoi Jérusalem, en particulier, comme ville? Mais là encore, en fait, il faut retracer les éléments de ce verset à travers toute la Bible, pour comprendre leur signification. Vous voyez, Jérusalem, en fait, dans la Bible, représente la ville qui appartient à Dieu. Ok? Donc ici, c'est la promesse d'une ville que Dieu ne délaissera jamais. C'est pour ça qu'on l'appelle Jérusalem. Et puis, pourquoi une ville? Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de la vie en ville. Ben, souvent, en fait, on pense, n'est-ce pas, que vivre en ville est plutôt un choix qui se fait pour des raisons pratiques, peut-être. Il est fort probable que votre vision de paradis, en fait, c'est plutôt la campagne, n'est-ce pas? Ou bien la plage et les montagnes et tout ça. En tout cas, loin de la ville, avec sa saleté et son bruit intolérable. Donc pourquoi le paradis est une ville, alors? Pourquoi? C'est parce que la ville est aussi la mariée. Et la ville, avant tout, c'est quoi? C'est les gens, en forme concentrée. Et donc ce verset alors est la promesse que Dieu invitera des millions de personnes à vivre la nouvelle création avec lui. En fait, il a promis que ce sera un nombre équivalent au nombre des étoiles dans le ciel. Et donc, si nous ne concevons pas la ville comme le paradis, n'est-ce pas souvent, en fait, parce que c'est à cause des problèmes qui surgissent lorsqu'on doit vivre en proximité avec d'autres? C'est ça, n'est-ce pas? La saleté, les soucis de voisinage, manque d'amour et de partage dans nos relations avec nos prochains. En parlant même récemment de son été, une amie disait à ma femme que c'est ça qu'elle recherchait avant tout dans les vacances, d'être loin de tout le monde. Et en fait, vous voyez, le problème que nous avons avec l'idée de la ville, l'idée de vivre près des autres, c'est en fait le problème des relations difficiles, n'est-ce pas? Le manque d'amour, le problème des relations brisées entre hommes. C'est pour ça, en fait, que nous avons besoin de la deuxième promesse ici, la deuxième bénédiction. Nous le voyons là dans les versets 3 à 4. C'est la bénédiction des relations parfaites entre Dieu et les hommes. Vous voyez, si la promesse de la nouvelle terre implique la fin des catastrophes naturelles et tout ça, les versets 3 et 4 nous promettent la fin de toute souffrance, point. Y compris, surtout, la souffrance due au mal des hommes et leurs actions. Le verset 4 est un verset qui contient la promesse que toute personne devrait vouloir entendre, n'est-ce pas? Un monde sans mort, sans agonie, sans peine, sans douleur. Là où, fin du verset 4, comme on a dit, la souffrance qui existe de nos jours n'existera plus. En fait, je crois que nous ne sommes même pas capables d'imaginer ce que ça pourrait être de vivre cela, n'est-ce pas? La souffrance fait tellement partie de la vie terrestre. Et notez bien, ce n'est pas simplement la promesse de la fin de la guerre ou des choses comme ça, mais vraiment que toute larme sera essuyée. C'est que même les choses dans la vie qui risquent de nous faire pleurer, par exemple, même notre capacité à faire des remarques blessantes, bah, tout ça aussi sera soigné. N'est-ce pas incroyable? Vous voyez, ces quatre versets vous offrent tout ce qu'il faut pour le monde de vos rêves. Vraiment. Donc prenez juste un instant pour imaginer cela. Pour imaginer ce que vous aimeriez pour que tout soit parfait, sans peine. Dieu fait un nouveau monde qui dépassera infiniment toutes vos attentes. Et comment est-ce que cela va arriver, toutes ces choses, dans le verset 4? C'est le verset 3 qui nous explique la source. C'est grâce à une relation parfaite avec Dieu, notre Créateur. Le tabernacle mentionné ici, c'est là où Dieu habite. Et donc le verset 3 promet que Dieu vivra parmi les hommes. Il n'habitera pas parmi les hommes comme un dictateur, un Dieu retranché dans son palais confortable qui abuse de son pouvoir pour écraser les hommes. Non, pas ça. Début verset 4. C'est lui qui essuiera personnellement les larmes de nos yeux. La promesse certaine de l'intimité parfaite, de l'amour et du soin de Dieu. Ce sera un nouvel univers parfait. Car toute relation entre Dieu et entre l'homme sera parfaite. Et l'épanouissement régnera. Quelle promesse! Dieu fera, verset 5, toutes choses nouvelles. Et donc ça veut dire qu'il faut considérer la troisième promesse, la troisième bénédiction. Et c'est la bénédiction d'avoir l'assurance d'y participer. La bénédiction d'avoir l'assurance d'y participer. On le voit dans les versets 5 à 8. Début du verset 5, Dieu lui-même, assis sur son trône, affirme que ses paroles sont vraies et dignes. Le Dieu qui peut nommer des étoiles dans le ciel affirme que ses promesses sont bien fondées et lui fera en sorte que cela arrive. Et donc la question pour nous tous à nous poser aujourd'hui, c'est toi, y seras-tu? Toi, y seras-tu? D'après ce passage, il y a deux options, n'est-ce pas? Assez clair, très clair. Soit le verset 6 à 7, soit le verset 8. Soit-on peut-être de ceux qui reçoivent l'eau de la vie éternelle, et qui sont dans la présence de Dieu, héritiers du Fils et fils du Père céleste. Soit-on peut-être au nombre de ceux dont le destin final est les temps de feu et de soufre. Et donc ce verset 8 est difficile, n'est-ce pas? Mais c'est essentiel en fait. Car, et il faut réfléchir comme ceci, si la perfection de la nouvelle terre serait bien gâchée si il s'y trouvait des personnes qui pratiquaient ces choses, n'est-ce pas? C'est ça qu'on vient de dire. Ceux qui pratiquent ces choses seront justement exclus par Dieu de sa nouvelle création, bannis loin de sa présence, dans ce que la Bible appelle l'enfer. Le verset 8 est un résumé de tout ce qui ne va pas dans la nature humaine. Et en fait, quand on le lit, nous pouvons tous, n'est-ce pas, nous reconnaître dans cette liste. Qui peut dire qu'il n'a jamais été menteur, par exemple? Regardez les autres choses, bien. La question alors, c'est comment alors pouvons-nous accéder à ce monde parfait à venir? Comment être au nombre de ceux qui reçoivent l'eau de la vie si le moindre pécheur est exclu? Ben, regardez le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? C'est Dieu qui connaît l'état de notre cœur et de notre vie. Alpha et Oméga veut dire celui qui sait tout. Du début à la fin, y compris dans nos pensées et nos actions. Mais c'est lui, ce Dieu, qui donnera gratuitement la vie. Et ces éléments-là reprennent le message de toute la Bible. Et les Tessiaïkou l'ont déjà expliqué pour nous tellement bien. Jésus lui-même prononce ces paroles. Il annonce clairement que ce don gratuit vient au prix de sa vie à lui. Jésus est venu en avance, avant ce jour ici de la nouvelle création, pour permettre que des pécheurs comme vous et moi soyons lavés de nos fautes et nos péchés. C'est là la vérité que Kuhn et Laetitia ont acceptée. Donc quel beau rappel d'entendre le témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont compris que personne n'est capable d'atteindre ce nouveau monde par ses propres efforts. Ils sont venus alors humblement à Jésus. Et que faut-il alors pour avoir l'assurance de participer à ce nouveau monde? Celui qui veut y accéder doit se repentir et reconnaître son besoin du pardon de Dieu. Et du coup, quand nous lisons le mot « vainqueur » dans le verset 7, ce n'est pas une qualité méritée par un individu. C'est un statut accordé gratuitement par Dieu. Il le donne à ceux qui ont soif et qui viennent à lui en acceptant humblement qu'il est bien leur Dieu, en acceptant le sacrifice de Jésus. Vous voyez, laissez à nous-mêmes, nous ferions face à ce verset 8. Mais grâce à l'intervention de Dieu, nous pouvons, comme Kuhn et Laetitia, et beaucoup d'autres ici, accéder dès aujourd'hui à la vie en Jésus-Christ. La vie pour un monde à venir. Si toi, tu n'es pas sûr de ce qui va t'arriver au jour dont parle ce passage, à cet événement, par l'invitation t'es adressé dès aujourd'hui à celui qui a soif. je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Que nous sommes chacun et chacune censés comprendre que cette nouvelle terre et nouveau ciel dont on parle, c'est tout ce pourquoi nous avons été créés. La mort n'a plus besoin, grâce à Jésus, d'être la fin. Et donc, si nous sommes de celles et ceux qui ont soif et ont accepté la vie en Jésus-Christ, nous avons accès alors, automatiquement, à la nouvelle terre et la nouvelle vie, tout comme un fils a accès et le droit au héritage du Père qu'il aime, pour en faire alors notre ultime chez nous. Je ne sais pas pour vous, mais où est-on chez toi? Quelle est ta zone de confort? Qu'est-ce qui te rassure que tout va bien dans ta vie? Mais Dieu dit ici que la chose, ça c'est à venir. Le vrai chez nous est à venir. Et alors deux petites choses, juste pour terminer. Deux choses. D'abord, alors, en tant que disciple de Jésus, ne soyez pas surpris quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce monde. Ne soyez pas surpris quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce monde. Vous voyez, il est nécessaire de reconnaître que tout ne va pas du tout comme il faut dans notre société. En fait, ne serait-ce pas plutôt atroce, en fait, d'être insensible au point de penser que tout va bien? Nous sommes tentés de croire que l'on peut gérer le monde ou bien le sauver. Ben, il faut se renseigner, par exemple, sur la situation actuelle en Syrie. Et que nos relations en famille ou avec d'autres ne sont pas à l'auteur de nos attentes. Alors là aussi, c'est le signe que nous avons besoin d'une nouvelle ville parfaite. Alors, ne soyez pas surpris quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce monde. Ce n'est pas qu'il faut avoir une vision pessimiste de tout, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est plutôt pour pouvoir dire, ben quand je vois ou je fais l'expérience de la souffrance ou du mal, cela me rappelle que j'ai besoin de plus que ce monde a à m'offrir. J'ai besoin d'une relation parfaite avec mon Créateur et de son offre d'un monde à venir, son deuil et son larme. Soyez prêts alors à vous sentir mal à l'aise dans le monde en attendant le retour de Jésus. Mais, par contre, alors, l'avertissement, c'est soyez inquiets quand vous vous sentez bien à l'aise dans ce monde. Soyez inquiets si vous vous sentez bien à l'aise dans ce monde. Parce que si tout ce que vous cherchez vous semble atteignable, ou si vous ne visez que le confort dans ce monde, alors vous vous trompez dangereusement. Car, on l'a vu, cette terre disparaîtra. Je ne sais pas, est-ce que tu cherches à régler tes soucis, à soigner ton âme, en te confiant à des objectifs terrestres et en mettant ta confiance dans tes propres efforts? C'est pas que ce soit de bonnes choses qu'on cherche ici, en elle-même, la famille, une maison confortable, une stabilité financière, un partenaire pour partager la vie. Ce n'est pas mauvais de consacrer du temps et des efforts à ces choses-là. Mais quand ce sont ces choses qui vous donnent le sentiment de la réussite, ces choses qui vous poussent à ignorer ou désobéir à Dieu, et ces choses qui sont votre garantie de sécurité, cela devrait vous inquiéter, car cette terre va disparaître un jour. C'est l'avertissement ultime, en fait, n'est-ce pas? Nous vivons tous une vie qui mène inévitablement à la mort. Ce serait une tragédie de nous concentrer toutes nos ambitions et nos efforts sur des choses qui vont être détruites. Au contraire, alors, que nous construisions notre vie sur cette promesse ici, d'une nouvelle vie qui transcendra la mort. Que nous nous repentions comme Kuhn et Laetitia ont fait. Que nous acceptions l'offre merveilleuse d'un Sauveur qui nous offre par sa grâce une éternité en tant qu'enfant de Dieu. C'est la promesse du Dieu d'amour qui a créé les galaxies et qui essuiera personnellement nos larmes. Cherchons-le avant toute autre chose.
Merci, Johnny. À la lumière de ce que nous venons d'entendre,